Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé.
Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de Choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de Choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle édition de Pop en Stock, épisode 122. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et ça me fait terriblement plaisir avec du matériel de podcast de haute qualité, commençant par mon acolyte, ou je suis plutôt ton acolyte dans cette vie actuelle. Megan, bonjour.
Bonjour.
Je suis encore content que tu sois là.
Très content d'être ici.
Passes-tu très bon temps. Et Charles-Emmanuel, bonhomme Ouellette.
Oui. Ben au long, c'est ça. Mais en fait, c'est comme si je veux participer à un concours dans un sac de chips, ça rentre pas sur une ligne. c'est délicat.
Vous connaissez Bonhomme qui est déjà venu faire des rencontres et des entretiens et des capsules ici à Pop en Stock. Mais cette semaine, c'était plus important que jamais que tu fasses partie de l'émission. Et il y a plein d'autres émissions qui vont venir où tu seras plus important que toujours. La pollution, toujours jamais. Mais aujourd'hui, puisqu'on s'attaquait à ce sujet qui me tétanise pour deux raisons, en fait, parce qu'on est très proche de Noël et je n'ai pas terminé mon magasinage de Noël, ce qui a trait de moi et de mon épouse, c'est pas si problématique que ça, mais j'ai deux enfants et c'est sûr que les jouets, ils les attendent. Donc, ça me fait très peur à l'extérieur de la radio, mais ça me fait aussi intimement pas peur, mais ça m'intimide de parler de ces figurines-là parce que j'ai pas l'impression que la grande étude sur les jouets a été faite. Je crois qu'elle reste à venir. Il y a quelques textes théoriques. Megan, je sais que tu veux nous parler de mythologie de Barthes
oui.
Et de son affection pour le plastique.
Entre autres. Oui, c'est ça.
Mais le autant qu'on a vu dans les Popular Culture Studies pulluler des sous-thématiques avec des expressions très précises, je n'ai pas encore vu de recherche sur les jouets. Et c'est potentiellement parce que il n'y a pas eu rien qui a été écrit par Bonhomme. Bonhomme, t'es une ressource.
Oh, une retour. Oui, ben, en fait, moi, je suis un gros nerd. Je suis là uniquement à titre de gros nerd ressource. Je suis collectionneur, je suis amateur de figurines. Ça a commencé depuis que je suis petit gars et j'ai tombé dans la marmite quand j'étais petit.
Oui.
Et puis, donc, c'est ça. Je suis simplement ici en tant qu'expert conseil.
Non, c'est oui, mais plus que ça, parce que c'est surtout ça quand vient le temps d'étudier des objets de la culture populaire, c'est le fun d'arriver un peu comme arriviste, puis de regarder, puis de dire, bon, en deux semaines de réflexion, je me suis fait ces hypothèses et tout, mais c'est toute autre perspective que d'avoir baigné dedans autant que toi. Puis c'est là où je trouve que c'est très important, parce que, comme on disait avant d'arriver en onde, j'ai mes souvenirs de mes figurines de prédilection. Je me rappelle de tout l'imaginaire que je m'étais construit autour des masques. T'sais, les petits autos qui se transformaient avec les personnages qui avaient comme des
exactement,
gros...
Exactement, oui, ben c'était dans toute la vague des figurines transformables des années 80. On pourra y revenir.
Exactement. Ça nourrit une forme d'approche à la culture. Tu dis transformable, c'est cohérent. Avec
oui,
la façon
oui,
que je
absolument.
Vois le
monde. Puis à travers ces petites représentations en plastique-là, on projette beaucoup. Mmh. Et puis, vous avez parlé des fandoms problématiques. Je pense qu'il y a une... Je pense que l'enfant qui va jouer avec ces figurines-là projette beaucoup, s'investit beaucoup et vient qu'à leur... à les faire vivre beaucoup dans son imaginaire. Et puis, justement, quand cet imaginaire-là se fait réapproprier, malgré le fait que c'est des entreprises qui sont commerciales au départ, il y a une part d'imaginaire qui est bâtie à travers ces personnages-là. Et puis, justement, quand on y touche, pas de la bonne manière, que ce soit un réalisateur de film qui décide de les adapter, qui décide de faire une nouvelle itération, que ce soit en plastique, en BD, au cinéma. C'est des trucs auxquels les gens sont très attachés.
Ben c'est ça, parce qu'un peu, on se les approprie en tant qu'enfant ou même en tant qu'adulte, mais aussi on les investit de notre imaginaire ou de notre vision, justement, du monde fictif sur lequel... les figurines sont basées, donc c'est ça, comme tu dis, si jamais il y a un réalisateur qui décide de les remettre à l'écran, de les remettre en histoire, de les canoniser, pas de la manière dont on s'était imaginé, ça peut faire des frictions.
Oh oui, exact.
Puis c'est deux trucs, parce que le jouet existe depuis très longtemps, aussi minimaliste.
Il y en a qui se conservent mieux que d'autres, oui. Ça, c'est le collectionneur qui parle. Les G.I. Joe des années 70, les élastiques sèches. Et donc, ils sont tous démembrés aujourd'hui.
Absolument. on vient de la même génération, ça qu'on se rappelle de la drôle de forme que les G.I. Joe prenaient quand l'élastique était rendu pété.
Oui.
Ça avait l'air comme d'une bouche de serpent. C'était bien étrange. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé avec cette génération-là de jouets qui a été annoncé. C'est que au début, on faisait des jouets et on jouait avec, on faisait une mise en scène. Mais cette arrivée de nouveaux jouets faisait en sorte que la mise en scène, elle nous était donnée. Les G.I. Joe, c'était une émission avant d'être des jouets, si je me trompe pas.
Au tout départ, parce que là, on va parler je pense qu'on cerne un petit peu plus une catégorie de jouets, c'est-à-dire on va parler des figurines d'action.
Okay.
Moi,
je suis avec toi là-dessus.
Si je me fie, en fait, c'est vraiment les G.I. Joe apparaissent en 64.
Ah.
Les G.I. Joe 12 pouces, format poupée. Mais le truc, c'est eux autres qui arrivent avec le terme « action figure » en anglais. Comme on en parlait juste avant l'émission, les 30 secondes que j'étais là avant d'entrer en ondes.
De très belles 30 secondes.
C'est un peu comme la différence qu'on va faire. Tu sais, le pareil, pas pareil, de l'appellation « comics ». Pour les bandes dessinées américaines et pour, on va dire, une bande dessinée en français. Il n'y a pas de péjoratif. Qui est véhiculé par le côté bande dessinée. Comics peut être un petit peu plus limitatif. Fait que là, on est arrivé avec d'autres termes comme le graphic novel et autres.
Ouais. Puis, est-ce qu'il y a trait des action figures aussi, il y a quelque chose de pas ambigu ni paradoxal, mais tu sais, il y a des moments où c'est pas une poupée, c'est un action figure. Fait qu'il y a une hiérarchie bizarre dans le domaine des jouets. La action figure est connotativement plus positive que la poupée.
Exact. Ben, en fait, c'est que les bonhommes, je parle des individus et non pas des figurines.
Ah, OK.
Y a Donald Levine, qui est un bonhomme qui travaille chez Hasbro dans les années 60, et puis il voit les petits mannequins pour le dessin, les petits mannequins de bois articulés avec les têtes en forme d'ampoule, là.
Mm-hmm. Oui,
il dit, ça serait génial de faire une figurine de soldat, parce qu'il faisait des petites figurines, des petits soldats verts en plastique, inarticulés. Il dit, ça serait génial de faire une figurine de soldat comme ça, avec des accessoires que tu peux habiller, tu peux y mettre son casque, son backsack, ses armes, ses grenades. Y faire un piscano, des choses comme ça, tu sais. Et puis là, tous les gars, chez Hasbro disent c'est génial, mais on va jamais pouvoir vendre une poupée à des petits gars. Les parents, que ce soit papa, maman, voudront jamais acheter ça à un petit gars. Fait qu'ils disent, OK, on n'appellera jamais ça des poupées, malgré le fait que les premiers G.I. Joe, ils étaient vraiment format Barbie, 12 pouces, 30 centimètres. Ils disent, on va jamais appeler ça des poupées, ce sont des action figures, des movable action figures, des figurines d'action articulées.
Ben un peu comme c'est une décision marketing éditoriale, un peu comme le comics graphic novel, la bande dessinée.
Exact.
Mais ça désigne à la fois justement, comme on essaie de hiérarchiser, le graphic novel, c'est plus le fun, c'est plus adulte, c'est ça que les. Mais aussi, ça désigne aussi un format, là. Donc le format graphic novel ou la action figure. La action figure n'était pas comme les poupées qui existaient déjà non plus.
Exactement.
Au début, il était, mais je veux juste être certain, est-ce que tu parles des mégots?
Mego, ça rentre dans les action figures, mais ça suit. Mego sont un format un petit peu plus psy, arrive dans les années 70. Je pense que ce sont 8 pouces, les Mego. Et puis, c'est ça. G.I. Joe est un petit peu plus grand, vraiment format Barbie. Mego est un petit peu plus psy. Il y a eu beaucoup de licences qui ont été adaptées sous forme Mego. Il y a eu des personnages créés. Mego, c'était une firme de jouets. Donc, il y avait Action Jackson qui était leur héros générique. Oui, exactement, l'Action Jackson. Et puis, moi, j'en avais un. Il y avait l'Action Jackson des années 70, barbu. Moi, j'avais le pas barbu et je trouvais qu'il ressemblait à Daniel Lavoie. Et puis, qui était vraiment comme un G.I. Joe. C'est comme un homme d'action qu'on peut habiller de différents trucs, mais il y a eu plein de licences. Ils ont fait notamment Star Trek, la planète des singes, et j'en passe.
Marvel,
oui, c'est ça. Ils ont fait Mego a fait les premières figurines de super-héros, de premières figurines articulées de super-héros.
Ouais. Ah, c'est ça.
Qu'ils ont fait les formats poupées, ils prenaient bien soin de ne pas dire que c'était des poupées, mais les formats, c'est ça, c'est comme une petite poupée de 8 pouces articulée qu'on pouvait déshabiller avec les gants de Batman et Robin qui étaient impossibles à mettre. Ouais, du coup, on pouvait les mettre, mais c'était impossible de jouer avec sans qu'ils les perdent. Et puis, ils ont fait aussi, à l'époque, ils appelaient ça des mini-figures, donc des mini-figurines. C'était les figurines de 3 pouces, 3 quarts, 4 pouces. Oh. Donc, 10 cm environ. C'est vraiment le format qui a été standardisé par la suite avec les figurines de la Guerre des Étoiles qui arrivent en 77.
Ah.
Et puis là, à l'époque même, quand ils sortent ces figurines-là, il y a uniquement 12 figurines au départ.
Pour Star Trek?
Non, pour Star Wars. Pour la Guerre des Étoiles, la première série. Oui, A New Hope.
Vraiment, là.
Exactement. Là, et puis, ils les appellent les mini-figurines parce qu'il y a une collection de poupées aussi, de poupées 30 cm, 12 pouces. Et puis, ils l'abandonnent tranquillement pas vite à l'entour de l'Empire contre-attaque.
Ah.
Et puis, en fait, c'est que l'idée de faire des figurines plus petites, c'est ça, 3 pouces, 3 quarts, 4 pouces, c'est que ça donne plus de possibilités au niveau des jouets. C'est-à-dire des véhicules.
Ah, okay. Parce
que en faisant un G.I. Joe 12 pouces, ils ont fait des Jeeps, mais tu sais, je veux dire, c'est gros comme... C'est gros comme un...
Comme un Tonka, là.
C'est ça. Sinon plus, là, je veux dire, tu sais, c'est gros comme une petite Fiat, là, tu sais, je veux dire. c'est imposant, là, tu sais. Et puis, par la suite, étant donné qu'on fait des figurines plus petites, évidemment, Guerre des Étoiles, ça prête à ça. On peut faire les chasseurs, les différents vaisseaux spatials, ces trucs-là. Et puis, exactement, qui était à la fois, tu sais, comme un playset, comme le terme, tu sais, c'est vraiment un ensemble de jeux. C'est une base laquelle on peut jouer, mais c'est aussi un vaisseau. C'est les deux en même temps. Tu sais. Et puis, paradoxalement, ça arrive vers 78. Le film arrive en 77, les figurines 78. Là, c'est G.I. Joe en 1982. Qui reprennent les G.I. Joe, mais qui font plus petits, qui font le format des figurines de la Guerre des Étoiles. Puis là, à ce moment-là, ils peuvent faire des avions, des chars d'assaut, des bases, des guérites, des miradors.
Fait que je me trompais en disant que les jouets de G.I. Joe sont arrivés après la télésérie.
Non, absolument pas. C'est vraiment des figurines.
C'est des figurines d'abord et avant tout. C'est ça. Parce que j'avais vraiment l'impression que l'action figure avait commencé quand on pouvait faire des émissions de télé et ensuite faire la licence de jouets pour que les enfants tous les samedis matin.
C'est un format qui commence déjà avant même que le mot action figure.
C'est ça.
Déjà, je faisais un petit peu de recherche pour l'émission, puis j'ai vu que les mystères de Paris d'Eugène Sue. Il y avait une variation. Il y avait beaucoup de produits dérivés, dont une variation du jeu de loi. Donc, c'est juste, tu brasses des dés, t'avances, puis à un moment, t'arrives à la fin. Puis, il y avait aussi des personnages découpables à collectionner. Donc, c'était des personnages faits dans du papier qu'on pouvait découper et collectionner. Puis, c'est vraiment plus avec Disney qu'on voit que le marketing basé autour du personnage...
Les toutous, ces trucs-là qui apparaissent.
Ça se développe vraiment avec Disney. Puis c'est ça, t'as la famille, t'as Mickey et ses amis. On leur fait des poupées, des petites... Même, je sais pas s'il y avait des figurines à l'époque, mais... C'est vraiment...
Souvent, c'était moins articulé. C'était plus comme des peluches, des toutous.
Il y avait aussi des produits dérivés. Je sais qu'avec la Belle et la Bête et Blanche-Neige et les Sept Nains, il y avait déjà des accessoires en fait pour qui fitaient avec le film. Par exemple, dans la Belle et la Bête, il y avait la fleur. On pouvait acheter la fleur.
Ouais. OK, tu parles, OK, pas celui-là des années 90, non?
Non, je sais pas.
Oui, parce que celui des années 90 de Disney, ouais. C'était...
Mais déjà avec Blanche-Neige, il y avait... Ouais, ça, c'est 1937,
il y avait vraiment des toutous, des sept nains, ces trucs-là. Il y a beaucoup de photos de... Ouais. On voit Walt avec entouré des toutous dans son bureau, ouais, ces trucs-là. Tu posais une question intéressante quand on parlait de l'émission. Est-ce que ces produits dérivés-là ont eu des influences sur certaines œuvres? Et puis là, on parle mm-hmm. encore avant l'arrivée des figurines articulées à proprement ouais. dit. Dans les pierres à feu, les deux, trois premières saisons, c'est vraiment une comédie de situation de couple, essentiellement. Mm-hmm. Ils n'ont pas d'enfants encore. Et puis Agathe, Boum Boum arrive plus tard. Et puis quand Agathe arrive, la fille des pierres à feu, mm-hmm. donc Fred et Delima, au début, ils ont dit que ça va être Fred Junior. Il pète ça, là, tu sais, en idée. Et puis, Anna ou Barbara, un des deux, les deux oui. Producteurs et réalisateurs de la série, disent ça serait plus intéressant que ce soit une petite fille. Si on en fait des poupées, les petites poupées de filles vendent mieux.
On va pouvoir aller chercher une part de marché qu'on n'a peut-être pas.
Ça, déjà, on basait l'histoire, on essaie de créer une histoire pour vendre des produits dérivés.
C'est là où je trouve cette dynamique-là vraiment intéressante, oui. parce que la deuxième saison... où toutes les, ouais. tu sais, toutes les bris d'actes ou les changements de saison permettaient un remaniement à la fois de l'histoire, mais des produits dérivés. Fait que c'est très évolutif, je trouve, comme domaine. Tu peux faire la lignée complète d'un fandom en regardant, bon, comme tu dis, on avait besoin de ça, on a regardé le marché pour ça, on a rajouté, on voit pourquoi est-ce que tel ou tel personnage a été ajouté à ce moment-là. Je trouve ça fascinant.
Puis, rapidement, l'œuvre qui littéralise vraiment ce processus-là de créer des histoires pour des personnages et pour vendre des personnages en forme de jouets, c'est Histoire de jouets, Toy Story. Donc, on met littéralement des jouets dans un film pour faire une ligne de jouets pour les vendre. Plus tard.
C'est vrai.
Ça l'aplatit, ça révèle un peu aussi le processus.
Oui. Et puis, ce qui est génial, comme quand ils ont fait la figurine de Buzz Lightyear, l'astronaute dans Histoire de jouets, ils l'ont fait... Parce que ça, c'est un truc, souvent, des jouets qu'on a connus enfants, quand on les revoit, souvent, on dit « et qu'ils sont psy ». Parce que, veux pas, on a grandi. Moi, mon Voltron, il était haut comme ma face. Quand j'étais psy. Puis quand je le revois, c'est comme « Ah, il est pas si grand que ça, finalement. » Mais quand ils ont fait Buzz Lightyear, ils l'ont fait le format pour qu'un adulte, on le trouve gros, comme on trouvait nos plus grandes figurines. Qu'on ressente le même effet qu'on avait. Puis donc, il était assez massif quand ils l'ont fait en figurine par rapport à ça.
C'est super intéressant, ça. Parce que là, t'es en train de jouer avec la perspective.
Exact.
Puis en même temps, Buzz, je serais prêt à parier que s'il l'avait fait plus petit... les trucs qu'il fait dans le film n'auraient pas pu être implémentés au complet dans la figurine.
Probablement.
Il aurait pas pu faire le laser, il aurait peut-être eu moins de bruit, ou soit le laser sur les bruits. Les ailes aussi, le wingspan. Oui. Excuse, la première fois que j'ai joué avec un Buzz, c'était cet été. Mais effectivement, j'ai eu le même constat. Moi, je le trouvais gros. J'étais vraiment comme, waouh, ils l'ont fait gros à l'origine. C'est bien quelque chose, ça.
Ça témoigne aussi d'une espèce de démarcation. Au début, ça, les jouets étaient tout petits, mais étaient majoritairement destinés aux enfants. Aujourd'hui, tout le monde est intéressé par les action figures.
Oui.
On rentre dans un bureau. Dès qu'on rentre dans le département d'informatique, moi, évidemment, je travaille en jeux vidéo, en animation, ces trucs-là. Tout le monde a des figurines sur le bureau, ou à peu près. Mais n'importe quel département d'informatique, tu vas avoir une figurine. Puis, tu sais, il y a des figurines, je crois, c'est vraiment qui visent le marché plus adulte, que ça soit. Évidemment, il y a les figurines de sport, que là, c'est sûr que tu peux atteindre. Tu fais une figurine d'un gardien de but, tu fais une figurine de Carey Price, ça peut intéresser un gamin qu'un fan de hockey plus vieux. Puis, avec le niveau de réalisme et de détail dans les figurines, c'est sûr. Et puis, souvent, c'est des figurines qui sont même plus articulées.
Non, c'est ça, c'est des sculptures. C'est des sculptures
à mettre, c'est ça, sur l'étagère à DVD ou sur le coin du bureau.
Il y a une espèce de gradation, justement, du jouet entièrement articulé, un peu cheap, que ça dérange pas s'il se brise, jusqu'à la sculpture en céramique peinte à la main.
Oui, mais là, sans vouloir me tromper, cette mode-là, c'est arrivé avec McFarlane Toys.
McFarlane Toys arrive à fin des années 90.
Ouais.
Et puis, ils commencent, évidemment, ils viennent adapter des figurines de...
films d'horreur, tous
les personnages de Spawn, qui sont la bande dessinée de Todd McFarlane, qui est une bande dessinée plus adulte, ou en tout le moins ado qui se prend pour un adulte parce que c'est un petit peu plus violent. Pis tout, là, ben c'est ça, mais dans le fond, c'est très adolescent. Mais n'empêche, on fait des figurines de films d'horreur. On fait Freddy, Jason, Leatherface. Et puis là, c'était de chercher parce qu'il y avait des versions tout dépendant. Des fois, il y avait plus de sang, tout dépend.
Il y avait noir et blanc, mais je me rappelle pas.
Il y avait des versions noir et blanc, mais il y a certaines chaînes qui disaient, OK, ils avaient été un peu fort sur le sang, sur la tronçonneuse de Leatherface. Pouvez-vous nous faire une variante? C'est quand même une figurine de film d'horreur qui a une tronçonneuse. C'est déjà beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de mettre des splodges de sang partout.
Il y a une tête dans une chaudière.
Oui, mais c'est ça dépendait d'où on l'achetait.
Wow!
Oui, il y avait certaines chaînes comme Walmart, ces trucs-là, qui ont un lobby, qui sont généralement plus puritains, ces trucs-là. Souvent, ben ça, c'est quand tu allais au Toys R Us, tu pouvais l'avoir, ou tu allais chez Art, ou je sais pas trop quelle boutique à côté. Là.
C'est encore très évolutif comme...
Exact.
Comme domaine, comme milieu, je trouve ça. Ouais, je trouve ça très intéressant.
Mais tu dis évolutif, vraiment, le premier partenariat figurine, vous dire le premier qui
pense de cette manière-là.
Les figurines des maîtres de l'univers, He-Man et les maîtres de l'univers, les Masters of the Universe de Mattel, arrivent en 81, les figurines, et puis ils développent un dessin animé avec Filmation. Mais au départ, c'est vraiment c'est vraiment des figurines à part entière. C'est des jouets, simplement.
Dans ce que j'ai lu aussi, il y avait Frisinette à la même époque, un peu.
Oui,
il y avait le même principe. Puis c'est basé, je sais qu'au Japon, ça, le Mediamix, c'est vraiment basé là-dessus. Donc, on crée une ligne de jouets, on crée des peluches, des animaux, puis ensuite, on leur greffe un univers fictif pour permettre de les vendre plus. Puis il y a une interaction là-dedans. Là. Donc, je peux te laisser poursuivre sur
He-Man. C'est ça, He-Man, c'est vraiment... au départ, les figurines viennent avec des mini-comics, qui a vraiment des mini-figurines qui racontent une histoire. Les premiers sont même pas en bande dessinée, c'est vraiment comme des textes illustrés, un peu comme un livre de contes. Il y a vraiment des illustrations super léchées. Ils vont chercher des gars de DC Comics pour les faire. C'est vraiment très soigné. Et puis... en partant, il y a une mythologie. On crée des personnages pour les figurines. On crée un univers fictif. Là, Mattel s'associe avec le studio Filmation, qui est un studio d'animation américain, pour développer une série télé. Et puis là, les ventes étaient déjà bonnes, mais là, ça explose à ce moment-là. Et puis, si vous vous souvenez de tous les dessins animés basés sur des jouets des années 80 et les suivants, il y a une petite morale à la fin de l'émission.
Il y a une petite vignette.
Dit « Ah, ben, tu vois, aujourd'hui, tel méchant joue avec du feu. C'est pas très bon jouer avec du feu parce que tu pourrais brûler ta maison, tes doigts et ou tes jouets. » Et puis, c'est les studios Filmation. C'est pas des groupes de pression de parents, ceux qui nous ont saboté tellement de trucs un petit peu plus caustiques qu'on aurait pu apprécier quand on était psy. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment les studios qui disent « C'est vraiment une pub de jouets animés d'une demi-heure. » Faut faire quelque chose pour ça. On va racheter des petites vignettes morales à la fin. Puis là, par la suite, G.I. Joe, Transformers n'avait pas. Mais en tout cas, une puis une autre se mettent. Non, il n'y en avait pas.
J'ai comme un souvenir, comme s'il y en avait, mais c'est peut-être pas le cas, c'est même ça.
Peut-être que non. Mais enfin, sur mes DVD, je ne sais pas. J'ai peut-être un souvenir.
C'est en fait aussi un bruitement de mon enfance. Là. Il y a comme.
Aussi.
J'ai tellement été habitué à ce. Fin d'épisode où il y a deux héros qui, comme, accolent un enfant pour dire « Ah, tu sais, il faut que tu nettoies la chaîne de ton vélo. » Puis dans ma tête, c'était peut-être He-Man, mais j'ai mis deux robots à place. Ouais. Ne mettons pas beaucoup d'importance sur
ça. Tu parles de ces histoires-là qui servent à finalement introduire des nouveaux personnages et faire la place. Parce que là, ils ont un temps d'étalage donné, ces figurines-là. À un moment donné, après un an, deux ans, trois ans, ils retiraient des tablettes. Le film, il y a un long métrage animé des Transformers en 86.
Oui.
Et la première demi-heure sert essentiellement à tuer toutes les vieilles figurines. C'est pour ça que c'est une hécatombe très particulière. Wow. Je me l'ai retapé cette année, ce film-là, puis j'ai fait quand... Oui, c'est vraiment violent parce qu'il tue tous les personnages, puis sur les suppléments du DVD, tout le monde dit, ben oui, c'est vraiment comme, ben, c'était les jouets qui étaient discontinués. Et donc...
tu es aussi Optimus Prime.
Oui, exact. C'est ça, là, c'est... Et puis, on devait faire place à la nouvelle ligne de jouets. Et puis, donc, il y en a qui sont reformés. Ah, OK, bon, de son cadavre, on crée un nouveau personnage, puis tout, mais c'était vraiment l'idée de, ben, les jouets sont discontinués. He-Man, par contre, il y avait des rééditions. Les personnages principaux étaient réédités pratiquement sur toute la ligne.
Ça me semble super intéressant parce que c'est vrai, cette formulation-là, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit des pubs d'une demi-heure pour tes jouets. Les bonus qui sont comme, ben oui, il fallait qu'on fasse la ligne de production était terminée. Il y a une façon... Où il y aurait une façon de voir ça comme étant très mesquin.
Oui,
mais non,
oui,
ils
ben
sont
absolument.
Très comme, ben oui, man, c'est mine.
C'était ça notre job.
C'est ça. Puis effectivement, je ne savais pas pour les He-Man, les mini-comics, mais il y a énormément de gens très intelligents qui ont travaillé.
Ben oui,
très créatifs.
Entre autres, sur les mini-comics, il y a. Et puis sur la série de He-Man et les Maîtres de l'Univers, c'est Paul Dini et puis Bruce Timm. Bruce Timm en illustre quelques-uns, d'ailleurs. Il commence chez Filmation, qui est un studio d'animation, puis c'était des jeunes qui sortaient de l'école. Bruce Timm, Paul Dini, c'est donc le créateur de Lost.
Ouais.
Et puis.
Bruce Timm, c'est son acolyte pour Batman The Animated Series.
Exactement, qui fait. Tout ce qui est DC animé depuis le début des années 90.
Wow! Parce que c'est ça, ça a été quand même une usine de gens extrêmement créatifs. Tout le monde a un peu passé à travers ça. Je sais qu'il y a toute la... Je pense Gerber, il y a une bonne gang aussi des écrivains de comics des années 70 qui, lorsque la vague elle a commencé un peu à tituber puis à pencher, ben ils sont retrouvés à faire du jouet.
Oui, ben oui, exactement. Jack Kirby, qui a créé comme le corps des super-héros qu'on connaît, n'a jamais fait beaucoup d'argent de sa vie parce qu'il était finalement toujours travailleur autonome, payé à pièce, malgré le fait qu'il a créé Fantastic Four, malgré le fait qu'il a créé... Et j'en passe. Quand ils ont fait les Super Powers, qui était une collection de Kenner, qui est une collection de jouets de Kenner, basée sur les super-héros de DC Comics, à ce moment-là, ils ont demandé à Jack Kirby de faire des dessins de concept, puis de redesigner certains de ses personnages. Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé, OK, le gros méchant de la série, c'est pour être Darkseid, donc le méchant des New Gods, de Jack Kirby. Et puis, il a redessiné pratiquement tous ses personnages Fort Worth comme figurines pour cette ligne-là. Et puis, à ce moment-là, ça a été un des contrats les plus lucratifs qu'il a fait de sa carrière. Il a illustré des emballages pour des figurines Big Jim aussi, qui était un peu l'équivalent de G.I. Joe, qui était comme un homme d'action un peu passe-partout, puis dépendant des tenues qu'on lui achetait, il pouvait devenir alpiniste, chasseur de gorilles, et j'en passe. Et puis, il y a eu une durée de vie, peut-être 10-12 ans en Amérique du Nord, mais il a continué plusieurs années de plus en Europe. Et puis, c'est ça, si vous vous promenez sur Internet, il y a des superbes... il avait fait le Wolfpack, qui était comme un groupe d'aventuriers téméraires dirigé par Big Jim. Et puis, c'était Jack Kirby qui avait fait les concepts et les dessins pour les emballages là-dessus.
C'est incroyable. C'est ça, c'est une histoire. C'est un oral history. Là. C'est une histoire oubliée des dynamiques.
Exact. Ben, comment il s'appelle? Il y a eu des figurines. Ça, c'est vraiment extraterrestre, mais il y a eu des figurines de Rambo des années 80. Que c'est pas correct d'avoir des figurines de Rambo malgré le fait quand t'es un gabin. Et puis, d'ailleurs.
C'était le premier, là, de First Blood?
Non, c'était basé sur.
Rambo 2.
Principalement sur Rambo 2. Il y a juste Rambo Colonel Trotman, qui était son supérieur dans le film. Il y avait une jeune asiatique qui ressemblait beaucoup à Kobao, qui est le personnage féminin dans Rambo 2. Elle ne s'appelait pas pareil, mais essentiellement, c'était le même personnage.
Oui, c'est ça. Puis là, il y a...
Il ne mentionne jamais le Vietnam, je pense. Et il y avait une des figurines. Il y a eu donc un dessin animé basé sur les figurines qui est vraiment bizarre. Et puis, il y a Jill Kane qui avait travaillé à faire les modèles packs là-dessus. Puis, Jill Kane, qui est un des vieux de la vieille de DC Comics, qui a C'est lui qui a redessiné, entre autres, le Green Lantern qu'on connaît, oui. Avec le beau costume vert, les gants blancs, et pas le casque de Mercure.
Là, tu penses à Flash.
Flash, oui, exact. Ouais. Oui, je suis en train de me mélanger. Ouais. Mais donc, celui avec les pantalons bouffants qui a l'air plus d'un un peu saltimbanque. C'est ça, c'est lui qui est arrivé avec ce design-là. Puis, on le reconnaît malgré le fait que c'était de l'usine à saucisses, là, l'animation. Mais il y a quand même de ces petites touches, des fois, on fait, d'après moi, c'est lui qui a fait le design là-dessus.
Ouais.
Et puis, même ce qui est intéressant, c'est que des studios comme Marvel, là, à un moment donné, on se rend compte que de développer propriété. Une propriété intellectuelle, la jumeler avec des figurines, que ce soit la figurine qui soit en amont ou le dessin animé ou la BD qui soit en amont, il y a quelque chose qui fonctionne avec ça. Et Marvel crée une série spécifiquement pour faire des figurines qui est complètement aujourd'hui, parce que la ligne de figurines n'a pas fonctionné, c'était Crystar, les soldats de Crystal.
Oui, oui.
Ça dure, je pense que le comic a peut-être une vingtaine de numéros, je peux me tromper sur le nombre exact, là, mais ça dure peut-être 2 ans, pour dire. Là.
Tops, ouais.
Et puis, c'est ça, c'est Remco, qui est une firme de jouets qui font des figurines. Puis c'était des soldats genre Heroic Fantasy, mais en cristal. Les méchants étaient en lave, les bons étaient en cristal. Wow. Et puis c'est ça, il y a beaucoup de partenariats avec les grandes maisons d'édition de comics américains. Mm-hmm. Entre autres, les Transformers, on en parle, ça c'est une révolution quand ça arrive. C'est une genèse assez étrange, Transformers, parce que... Ouais.
Je suis curieux parce que j'en sais vraiment rien. Puis quand tu dis révolution, je suis comme « Ah ouais, quoi? »
en partant, c'est que tout le monde se met à faire des jouets qui se transforment quand Transformers arrive. En 85, et leurs gros compétiteurs qui sont complètement aujourd'hui, c'est les GoBots.
Les GoBots, ben oui.
De Tonka.
Il fallait que tu sois là pour t'en rappeler.
Oui, exact. Puis j'en parle à des gars de mon âge, j'étais comme, m'en souviens plus, là, des fois, je leur en montre un, puis ah ouais, je l'avais, lui, ben c'est ça. Ben. Mais.
T'avais la version cheap.
Oh. oui, mais indestructible parce que faite par Tonka. Et bon puis, ce qui arrivait, puis c'est ça, c'est que Tonka vraiment va chercher, c'est les Machine Robo, qui est une firme qui sont des jouets de Bandai, si je me souviens bien, faites au Japon. Puis c'est ça, c'est des véhicules qui se transforment en robots. Oh, c'est le fun, on va appeler ça les GoBots. Et ça finit pas mal là. Il y a des bons, il y a des méchants, mais il n'y a rien qui s'identifie si t'as pas le carton. Un coup qui est déballé, t'as aucun moyen de savoir si c'est un bon ou un méchant. Puis c'est pas, OK, lui, il est gris, il est noir. Okay. Il y a pas de faction. Ben, ils ont des noms de factions, mais ça finit là, tu sais.
Ils ont pas créé de série pour aller avec.
Ils en ont fait une. Anna Barbara en fait une.
Oui, OK.
Mais vraiment, elle arrive, on voit que ça arrive après.
Trop Donc, tard.
Vraiment, les figurines arrivent avant. Et puis, ben, c'est des robots qui se transforment en auto, ce qui est très évocateur, ce qui est très le fun. Moi, je me souviens,
cool.
Mon premier jouet transformable, et d'ailleurs, il arrive sur les tablettes quelques mois avant les transformables. Moi, ça a été Tank, mon premier jouet transformable à vie, si je me permets une anecdote personnelle. Et puis, j'étais complètement subjugué. C'était un petit robot bleu. Il était un coup transformé, les GoBots. C'est qu'il y avait une échelle qui était relativement constante à travers la collection. Un coup transformé, il est à peu près à la grosseur d'une Matchbox ou d'une Hot Wheels.
Il est tabarouette.
Et puis donc, lui, Tank, c'était comme un genre de tank futuriste. Essentiellement, tu l'assisais puis il devenait un tank, là, parce que il y avait des chenilles imprimées sur le bord des jambes, puis il y avait des fusils que tu devais changer de place, comme c'est beaucoup le cas des accessoires qu'on devait
changer
d'endroit.
Ouais, il allait comme il était en dessous du bras, tu le sortais un peu puis tu le revirais.
Exact, c'est ça, ouais. Exact. Et puis, c'est ça. Puis, essentiellement, donc... Tonka, pour le gros de la ligne des GoBots, se fie sur Machine Robo, qui est essentiellement toute la même ligne de jouets. Il y a une couple d'affaires complètement qui vont aller chercher à droite, à gauche, mais Hasbro, de leur côté, eux autres,
ouais.
Pardon, ils vont se fier ils se fient sur les jouets de la firme Takara, qui fait les Microman. Les Microman, là encore là, c'est tout à fait lié à l'origine des G.I. Joe, excusez-moi.
OK. Oui, t'es populaire. Mais
ça peut arriver.
Ben oui. Mais c'est probablement des gens qui t'écoutent qui sont comme « man, encore ». Non, oui, parce que je suis un peu subjugué par toute cette histoire-là. encore, j'ai l'impression, je vais te laisser revenir à ton point, okay. Mais j'ai l'impression qu'à cause de la construction, puis je le soulève pour qu'on puisse y revenir tantôt, peut-être que les jouets transformables ouvraient des potentialités chez les personnes. T'sais, autant qu'on parle exact. De cette idée-là, de comme on a commencé avec les jouets qui n'étaient pas amovibles, donc on devait pas mal les respecter tels quels. Là, on a une deuxième façon de jouer avec le jouet parce qu'ils sont posables. Là, on en a une troisième qui est capable de se transformer. Ce qui fait en sorte, non pas que l'enfant a deux jouets en un, parce que, bon, évidemment, c'est un
des atouts. Puis d'ailleurs, les premiers emballages appuyaient beaucoup sur ce point-là. Deux jouets en un. Oui. Puis l'objet était mis plus de l'avant. Par la suite, et avec Transformers, ces trucs-là, ils développent tellement les personnages que, ben là, c'est Optimus Prime, c'est Bumblebee, c'est... là, le personnage vient qu'à prendre toute la place, mais au début, c'était vraiment la gimmick, c'était le côté particulier qui mettait de l'avant. Là, t'as deux jouets, t'as une voiture et un robot. Ouais.
Et t'as ce... Parce que là, la petite valeur ajoutée que moi, je mettrais, c'est le casse-tête.
Ben, c'est exact. Le jouet de construction, c'est les Legos. Ouais.
Non, mais le casse-tête, il y avait quelque chose de... Il y avait une forme, ou du moins, je reviens à mon enfance, il y avait une fierté d'être capable d'assembler Optimus Prime comme il faut.
Oui, je me souviens très bien, mon premier Transformer, ce fois-là, c'était Skywarp, c'était le jet noir et mauve des méchants. Ça m'a pris un an le transformer. Oh. Il y a des étapes, c'était la première, tu sais, les gobos étaient relativement simples parce qu'ils étaient plus petits, mais étant donné que la majorité des transformeurs étaient de taille plus imposante, il y avait plus de détails, puis il y avait des étapes qu'on n'avait jamais faites. Maintenant, si je le retrouverais, t'as pas besoin de regarder les instructions, mais il y avait quelque chose à casser pour le faire le premier coup, là, je veux dire, parce que je fais quoi, là, tu sais, j'ai un jet qui ressemble à rien, à mi-chemin avec un point, puis à un moment donné, ça devenait un robot, là, t'sais.
C'est de l'origami.
Oui, ben exact, c'est mais c'est japonais, justement.
Ah,
Mais tu vois, justement, et c'est ça qui est beau, c'est que la genèse des Transformers peut vraiment commencer avec les G.I. Joe. Encore là, les gros G.I. Joe, 12 pouces, 30 cm.
Ouais.
Parce que au Japon, on les adapte, mais évidemment, juste un bonhomme qui se déguise en soldat. Ben, enfin, un soldat, simplement, c'est pas assez flyé pour les Japonais. T'sais. Surtout pas pour les créateurs de jouets japonais. Fait qu'ils créent les N-Sync. C'est ça, ils créent les N-Sync Cyborg. N-Sync qui veut dire transformable. Et puis, à ce moment-là, c'était essentiellement des G.I. Joe 12 pouces. Quand on les déshabillait, les G.I. Joe d'époque, ça avait l'air des androïdes, veux, veux pas, parce que il y avait pas de partie en caoutchouc. Fait que c'était tout, ben, c'est ça, on voyait toutes les articulations. Puis eux autres, ben, ils ont déshabillé le G.I. Joe, puis ils ont fait, on s'entend que ça a plus l'air d'un robot que d'un individu. Mm-hmm. Fait qu'ils ont moulé en plastique transparent. Ils ont réduit la tête pour faire une genre de tête robotique. Et puis finalement, quand on achetait des costumes pour le G.I. Joe, ben, qui était un cyborg dans ce cas-ci, on pouvait l'habiller complètement en un autre personnage.
Ah ouais!
Et puis, il y avait des lumières, étant donné qu'il était moulé en pièces transparentes, il y avait des lumières qui allumaient, puis tout, c'est vraiment les débuts des pièces électroniques dans les jouets. Ils viennent qu'à dire, hey, c'est vraiment intéressant, mais il faudrait leur faire plein de véhicules pétés, ben des affaires flyées. Fait que là, on crée les Microman, qui sont essentiellement des N-Sync Cyborg, comme je vous dis, les gros G.I. Joe, tout articulés, transparents. On en crée des versions, mais ça arrive avant les figurines de Star Wars, des petites versions de 3 pouces, 3 quarts, 10 cm. On peut leur faire des véhicules. Et puis, l'idée, toute l'histoire derrière Microman, c'est ça qui est beau, c'est vraiment... prendre le format du jouet en considération, c'est l'idée que c'est des créatures qui viennent de micro-univers.
Ouais.
Et quand ils arrivent dans notre univers, ils sont le format du jouet.
Fait que là, c'est encore plus... Le jouet est encore plus qu'est-ce qui est sorti de la TV, là.
Exactement. Oui, mais il n'y a pas encore de série télé. Sinon les publicités animées.
Mais on n'est plus dans le rapport de comme... Ça, c'est une... c'est une copie de qu'est-ce que je vois.
Non, exactement.
Là, c'est l'affaire.
Le jouet dans la télé, c'est le jouet Ouais. C'est un pour un, là, c'est la
bonne. Exactement. Le bon personnage est au 1-1. Et puis, pour aider ces aventuriers-là, ces robots-là à combattre les méchants robots, ouais. ces trucs-là, ils ont des accessoires qui se transforment en objets familiers. Donc, le premier transformeur, Soundwave, qui se transforme en tape cassette,
oui.
vient ouais. de Microman. En fait, qui
parce que la cassette s'en était un aussi.
La cassette se transformait en aigle, en panthère, c'est en petit robot, ces trucs-là. Et puis, c'est pour ça qu'il y a Megatron, qui est le chef des méchants, dans sa première itération, en jouet, c'est un pistolet.
Ouais.
Et puis, ça vient de cette collection-là. Encore là, c'est pour ça qu'on avait des bonhommes, deux figurines du même format. Il y en a un qui se transformait en camion, puis l'autre se transformait en tape cassette. Puis là, c'est comme, ouais, mais là, l'échelle ne marche ouais, pas. En tout,
c'est. Aïe, aïe. Puis fait que mais... tout est connecté.
Tout est. Oui, c'est exact. Malade. Exact. Et puis là, ben, et puis, c'est que quand Hasbro décide d'importer les transformeurs, ils font, hey, ça, c'est bon. Puis ils viennent piger dans plein de collections différentes. Finalement, toutes faites par la même firme au Japon, mais qui sont toutes des collections distinctes. Et puis, eux autres sont comme... C'est des bombes qui se transforment, ça s'appelle Transformers, on met tout ça ensemble. Et ils vont chercher des gens chez DC Comics
ah.
pour développer l'histoire. Et c'est ça, je pense, la grosse différence. On parle de leurs compétiteurs qui ont été vraiment big, mais si on n'a pas été un gamin, petit oh, ouais. gars des années 80, on a complètement oublié les GoBots. Mais c'est à la base, ils ont vraiment dit « OK, ça prend des factions, ça leur prend les logos. J'ai mon chandail avec le chandail des Autobots. » Moi, ça m'a halluciné quand les films sont sortis, puis veux pas, il y avait la nostalgie qui avait rejeté là-dedans. Puis là, il y avait des vrais Mustangs édition spéciale avec le logo en métal. Puis là, c'était comme... C'est une vraie voiture, ça coûte 39 000$, puis est étiqueté transformeur.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, c'était des bonhommes, là. Je veux dire,
ouais, ou, petit, mais... même chose au Comic-Con à Québec cette année, il y avait justement le troc
oh, oui.
peinturé comme Optimus Prime dans le film de Michael Bay. Ouais.
Puis on a passé 15 secondes.
Ah non, c'est impressionnant, là, je veux dire.
Oui, ouais, avec les flammes, tout, c'est vrai. Ouais. J'avais complètement oublié qu'on l'a vu.
On l'a vu en vrai.
Moi, j'ai vu Bumblebee au Comic-Con de Montréal.
Mais ce que tu dis sur les figurines qui sont un pour un peu comme pour suggérer justement le jeu dans la fiction, ça me fait penser à la fin de Lego Movie où on ouais. voit que le film, dans le fond, c'est juste qu'est-ce qui se passe sur la table de jeu.
Exact.
Puis c'est ça, là, il y a comme une mise en abîme de l'histoire du jeu, de qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais aussi sur les Lego qui sont un jeu de construction. Il faut pas coller les Lego.
Non.
Il faut leur laisser leur potentialité.
C'est le point, c'est ça. Oui, d'ailleurs, on vient de gâcher la fin pour ceux qui l'avaient
c'est
pas vu.
C'est un film extraordinaire, ça peut que vous voyez de
la morale, ne pas coller les Legos.
Non, la morale, c'est vraiment parce que le personnage de Will Ferrell a une orientation très rigide sur l'utilisation des jouets. Puis c'est drôle parce que j'y aurais pas pensé pour l'émission. Mais ça fonctionne très bien avec ce qu'on est en train de dire.
Mais ça fonctionne très bien aussi avec le fait que le jouet, pour revenir à ce que tu disais au début, que la figurine, le jouet est vraiment un oublié des études sur la culture pop.
Absolument.
C'est que c'est quelque chose qui apparaît dans la domesticité, dans le quotidien. C'est quelque chose qu'on manipule, c'est quelque chose qui est proche de nous, mais aussi qu'on s'approprie tellement qu'on peut pas lui imposer justement une vision d'ensemble uniformisée, théorique, comme on fait à l'université.
Non, c'est vrai. C'est ça. On peut l'observer par rapport à la télésérie ou par rapport au climat, mais on le sait trop bien que les enfants qui jouaient avec ne se contentaient pas de ce cadre-là.
Si on trouvait que le méchant était plus intéressant pour décider que c'était lui le bon, c'était correct.
Ou même chose avec, comme tu disais, je me souviens plus du nom, mais la ligne de jouets qui n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire avec.
Avec Tristar, tout le monde oublie ça.
Ben, c'est ça, mais...
Sauf toi!
J'ai déjà oublié, ça fait même pas 5 minutes. Oui, la fiction nous pousse à essayer d'imaginer des histoires avec, mais en même temps, elle ne met pas de barrière.
Ben non.
C'est exact, ça. C'est une suggestion.
C'est une suggestion,
Moi, j'ai une collection assez ridicule de He-Man et les Mains de l'Univers, et puis il y avait un des accessoires qui a été les plus, je veux dire... comment dire, que
convoité.
Le bercé, convoité exactement, je veux dire, que ça soit dans le catalogue ou du distribution consommateur, c'était le fameux château des ombres avec la grosse face de tête de mort dont la bouche s'ouvrait. Et pourtant, je me souviens très bien d'avoir regardé la série télé. Étant donné que c'est un château avec une face de marbre, c'est comme c'est le château de Skeletor. Mais quand on se tape la série télé, c'est pas c'est ça, pas vrai? En tout. C'est parce que le méchant dans He-Man et les Maîtres de l'Univers s'appelait Skeletor, puis avait. C'est facile à retenir, c'est celui qui a la face en squelette.
Oui. Mais c'est vrai que c'est by the power of Grayskull.
Oui, mais en fait, ça se veut comme une puissance ancestrale qui est gardée par les bons. Et puis, Skeletor essaie toujours de mettre la main dessus, mais c'est pas le château de Skeletor. Mais t'en parles à n'importe quel.
Ben oui.
Petit gars de notre âge, c'est le château de Skeletor. Oh, oh, je sais très bien de qui tu parles.
Ouais. Mais... autre exemple très personnel. Quand, ben, quand j'étais jeune, je devais avoir 6-7 ans, on m'avait donné. J'avais jamais vu les Star Wars de ma vie, ni les prequels, ni les originaux. Puis on m'avait donné une poupée Barbie de la princesse Amidala. Puis moi, elle avait l'air vraiment evil, fait que moi, c'était la méchante.
Ben oui, ça a l'air d'une genre de méchante.
Ah, oh, oui, c'est ça, avec le visage blanc, avec la ligne rouge dans le visage.
Un genre de Dragon Lady, exactement.
Oui, c'est ça, elle avait une robe en feu. Puis c'est ça, c'est pour dire que c'est, malgré tout, quand on est enfant, la fiction ne va jamais mettre de barrière sur les interprétations qu'on peut faire de l'objet. Là.
Pour être dans cette mouvance-là, je me rappelle d'avoir été, durant mon enfance, d'être allé acheter un jouet féminin qui était, tu sais, comme, parce que c'était très rigide à cette époque-là, il y avait les allées pour filles, les allées pour gars.
C'est encore un peu de même des fois.
Ouais, effectivement.
Il y a des pressions.
Mais j'étais allé en chercher une parce que ça balançait pas dans mon équipe.
Oui,
ça me prenait quelqu'un qui a une autre dynamique, comme dans un party Donjons et Dragons, t'as un healer ou t'as
t'as pas cinq barbarians autour de la table.
C'est ça, puis tout le monde était comme, je me rappelle de la réaction de ma mère qui fait, parce que c'était, peut-être que tu serais capable de le nommer, c'était des filles avec des ailes en plastique découpées qui virevoltaient très 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 rapidement. Okay. Tu peux les attacher bord en bord d'une pièce.
Ah, oui,
ça leur faisait une zipline, je trouve ça badass.
Ok, oui, il y avait eu les Sky Commando, qui était la version pour gars, que je m'en souviens uniquement par rapport au catalogue, aux distributions consommateurs.
Qui existe maintenant sur Facebook, hein?
Ah, ça se peut, ça
se peut. Je pense qu'il y a comme une communauté de collectionneurs qui sont sous ce nom-là. Ça a
ça serait tout à fait cohérent. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait des trucs, tu parles, des genres de tyroliennes. Je sais qu'il y avait une ligne pour garçons qui s'appelait les Sky Commando qui ont duré un Noël.
Mais moi,
c'était disparu
pas
par
pour
la
gars,
suite.
Pas pour
c'est fort possible. Il y a eu, ça c'est intéressant, on parle de He-Man, parce que c'est ça, un peu oublié aujourd'hui, mais ça a vraiment été une ligne super importante. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas refaite. Mais ils sont venus qu'à faire She-Ra, la princesse de la puissance, qui était la sœur jumelle qui vivait dans un autre univers de He-Man, Musclare, les fans français qui nous écoutent. Et d'ailleurs, moi, je me souviens très bien que je regardais ça comme tout le monde de notre âge. La plupart du temps, on les voyait en anglais au début. Fait que c'était comme des images intéressante et évocatrice qui, c'est comme, hey, c'est mes figurines qui bougent ou celui que j'ai vu au magasin que j'ai pas nécessairement, mais c'est le fun, je le vois aussi. Et on comprenait absolument rien de ce qui se passe. Ben, globalement, mais il y a quand même des subtilités qu'on perdait pour cause de, on parlait pas anglais. Et puis, quand He-Man est arrivé en français puis ils l'ont appelé Musclare, j'étais comme, c'est quoi, c'est bien niaiseux son nom. He-Man, ça veut rien dire dans ma tête d'enfant.
Ben oui.
Et puis c'est ça, pour moi c'était juste, c'était comme s'il s'appelait Michel ou tu sais Jean-Jacques, mais puis c'est ça, Michel-Ange, je trouvais ça ben trop dirigé, tandis que He-Man c'était encore plus dirigé, mais enfin j'étais pas bilingue à l'époque.
Ouais, ben j'avais ça avec Dragon Ball. Je me rappelle d'essayer de vouloir devancer les publications de Dragon Ball, puis clairement de pas lire.
Mais et donc pour revenir à She-Ra, c'était donc c'était la sœur jumelle de He-Man, et ils ont fait une collection de jouets avec des châteaux, avec des créatures, des monstres. Puis c'est ça, c'était des princesses guerrières avec des épées, des trucs comme ça. Et les deux lignes étaient parfaitement interchangeables à la même échelle toute.
Oui.
Et puis en fait, c'est que c'était des saisons He-Man et les Maîtres de l'Univers qui est un méga succès. C'est deux saisons sur 3 ou 4 ans. Et d'ailleurs, c'est un format particulier parce que c'est le premier dessin animé qui n'est pas conçu pour le samedi matin. C'est le premier dessin animé qui est conçu pour jouer la semaine. On parlait en direct syndication. Donc, c'était des saisons de 65 épisodes pour jouer 5 fois par semaine.
Wow. Ah, OK.
Et puis,
donc... Il perçait un marché totalement nouveau.
Exactement. Là, c'est ça. Pour ça, encore là, c'est qu'on va mettre des morales parce qu'on va se faire arracher la tête. Là, je veux dire, c'est ben trop clair qu'on veut vendre des bébelles, tu sais.
Man!
Et puis, c'est ça. Là, c'est vraiment... puis, à un moment donné, c'est qu'ils viennent qu'à avoir tellement d'épisodes que les studios, les réseaux disent, ben c'est correct, on peut les repasser en boucle à l'infini. Là, on en a, c'est ça, deux saisons de 65. Fait que là, ils décident, OK, bon, les... Mattel commence à faire les Princesses de la Puissance, donc.
Ouais.
Ben, Filmation dit, OK, on va faire... À ce moment-là, ils développent un dessin animé sur She-Ra et ils présentent les nouveaux personnages de He-Man, étant donné que la collection de jouets continue. À ce moment-là, il est présent dans la deuxième série, qui est une série à la fois pour filles et pour garçons. Et puis, ce qui était génial, ben, c'est que les méchants grotesques, les monstres des jouets de He-Man pouvaient très bien servir de monstres dans une collection de Princesses Guerrières.
C'est génial, ça.
C'est vraiment intéressant.
Ouais.
Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas refait, honnêtement. Mais à ce temps, des fois, il va y avoir des... S'il va avoir une propriété, c'est ça qui va être décliné en jouets, ben vraiment, il va avoir une... Comme là, récemment, je me promenais dans l'allée des jouets, on parlait du temps des fêtes qui s'en
vient. Ils ont fait... Vrai, le même.
ils ont fait des poupées, des figurines, de toutes les héroïnes de DC Comics, mais... sont pas à même échelle que les jouets de garçons de Batman puis Superman.
Effectivement, j'ai remarqué ça.
Son format poupée comme les autres poupées de petites filles, tu sais.
OK.
Et puis, c'est ça. Chez Roy et Man, c'est ça qui était vraiment sympathique parce que c'était pour les deux.
Mais c'est quand même un one-shot, là. Ça, c'est pas vraiment revenu après.
Non, ben, pas que je sache.
Puis ça permettait. Parce que ça peut paraître banal que les formats soient similaires, mais ça faisait que c'était cohérent qu'ils jouaient dans le même monde.
Exactement.
Tu pouvais vraiment les faire interagir, puis c'était vraiment comme un set complet à faire. Ben oui, c'est beaucoup plus progressiste que qu'est-ce qu'on serait porté à croire.
Imaginez. Moi, j'avais une interrogation, parce qu'on parle de jouer pas mal d'univers de fantasy ou de science-fiction depuis le début, mais c'est ça. Puis les figurines, ça se situe un peu justement dans ces genres-là, contrairement aux jouets qui existaient avant, qui étaient vraiment des jouets qu'on appelle d'imitation, donc des jouets de médecin ou des trucs qui imitaient la vie réelle.
Des outils.
Ouais, c'est ça. Mais c'est les figurines de sport ou de lutte qui font référence à des objets, à des choses qui existent pour de vrai, mais aussi qu'on veut garder avec nous. Je sais que mon père, il collectionne des bobbleheads, des joueurs du Canadien.
OK, bon,
c'est ça. Quel imaginaire que ça peut évoquer? Pourquoi on veut collectionner ces figurines-là, ou pourquoi on voudrait jouer? Est-ce que c'est parce que... Est-ce que ça fictivise le réel, ou c'est parce que... Je trouve que c'est un objet qui a un statut un peu particulier.
Il y a un côté... Ben, c'est un peu comme les collections de cartes de hockey ou ces trucs-là. C'est de dire... C'est qu'à un moment donné, c'est apprécier une discipline sportive, et puis s'en approprier, puis c'est un hobby qui est complètement parallèle.
Ouais.
Je pense que les premières figurines des de sport vraiment un petit peu plus poussé apparaissent dans les années 80, s'appelle les starting lineup. Au début, c'est juste des figurines de baseball, si je me souviens bien.
Okay.
Et ils font des joueurs d'à peu près toutes les équipes et un seul expo. Parce que bon, les expos étaient pas au sommet de la...
Tim Raines?
Je pense que c'était Marines.
Nice.
Je pense que oui. Avec sa belle grosse moustache.
Ouais.
Et puis c'était des figurines qui venaient avec une carte. Comme une carte à collectionner, que ce soit une carte de baseball ou de hockey. Et puis, ils viennent qu'à décliner après ça, donc, les quatre sports majeurs aux États-Unis. Donc, football, hockey et basketball.
Mmh. Ah. C'est une bonne question. Parce que moi aussi,
comme un objet entre deux.
Ouais. Ben, ça revient peut-être plus à ce que vous disiez de passer, c'est ça, de passer de poupée à action figure, à... figurine, parce que tu sais, l'affaire avec les McFarlane, moi qui mélangeait tout le temps, c'est le fait qu'ils sont articulables, mais la pose est tellement importante que tu bougeais pas.
Non, c'est ça.
Non, ben tu peux les poser pour leur donner, c'est ça, leur donner une pose intéressante sur un bureau ou sur une étagère à DVD, mais pas pour du jeu, nécessairement.
Non, mais il y avait une pose, en gros, là.
Ouais, exact,
le crow, c'était les deux bras sur le côté. C'est pas comme si tu pouvais faire un move de flash dance.
Non.
Les jambes bougeaient pas particulièrement bien, puis dès que tu bougeais d'un petit millimètre, il tenait plus debout, tu sais.
Exact.
C'était un drôle.
Il cassait, comme la plupart des joueurs.
Ouais. C'est ça, puis... Puis la plupart des figurines, moi, ça me fait juste penser au Funko Pop. Aujourd'hui, oui. Qu'il y a des Funko Pop de toutes.
Qu'est-ce qu'un Funko Pop?
C'est une espèce de... une petite figurine à peu près, je dirais...
C'est 4 quoi? Pouces.
4 pouces?
Oui, 10
centimes. Pour les formats normaux, puis il y a les
oui.
grosses aussi.
Oui, c'est sûr.
Puis ils ont comme là, des grosses têtes rectangulaires.
Ah oh, oui, oui,
très,
oui, oui.
Très, très, très stylisées. Là, au début, c'est dans les boutiques spécialisées. Ou tu vois, chez HMV, ah ben là, ils ont fait des trucs de séries télé en vogue.
Il y a des murs et des murs de ces affaires-là.
Et puis là, ça là, là, il y en a à l'épicerie, il y en a partout. Puis il y a, je pense que ça va plus vite de dire ce qui n'a pas été adapté en figurine Funko.
Oui, mais c'est ça. Et à chaque fois que je vais dans un Comic-Con, une convention, on regarde le mur de Funko Pop. Puis là, j'ai vu récemment, ils ont commencé à faire justement des sportifs. Il y a des Funko Pop de Gilmore Girls, il y a des Funko Pop...
Ah, les séries télé, il y en a vraiment plus beaucoup qui n'ont pas été adaptées.
C'est ça, au début, c'était plus justement des séries télé de genre, des trucs très, très caractéristiques.
Star Trek, les super-héros,
Maintenant, on a le relais de Gilmore Girls, puis elle a une tasse de café, fait que c'est comme ça qu'on peut la reconnaître, parce que sinon, elle a exactement la même face que tout le monde.
Oui, ils sont très stylisés, des bombes de films d'horreur, c'est ça, mais là, par la suite...
Ben, tu sais, un ailier droit puis un ailier gauche, les cheveux bruns, là, fais-moi pas...
Non, c'est ça.
Au final. Mais bon, il faut conclure, mais je ne pouvais pas concevoir une meilleure émission pour finir la saison. Merci énormément, bonhomme. Megan.
Merci à toi.
T'es brillante, t'es extraordinaire, puis je suis vraiment, vraiment content d'avoir fait ça avec toi. On va aller écouter Maxime Gervais de son album Artiste Raté. On écoute la pièce Maudit que c'est cool, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai en finissant l'émission.
Comprends.
Joyeux temps des fêtes, bonhomme. Merci pour tout. Joyeux temps des fêtes aux auditeurs aussi. On se revoit l'année prochaine.
Les autobus sont tous pognés dans la côte. Y'a comme un long silence, pis je t'invite à dormir chez nous. Encore un autre silence, pis tu souris, maudit que c'est cool. Ma petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous. Endormi collé, puis on n'a même pas fait l'amour.
On dit que c'est cool. On dit que
sa petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous.
On dit que c'est cool. On dit que c'est cool.
S'est endormi collé, puis on n'a même pas fait l'amour.
On dit que c'est cool. On dit que
tu veux mettre un vinyle, puis tu choisis un album de Neil Young. Choisi Harvest Moon, c'est mon préféré, maudit que c'est cool. Quand je te parle de lutte, t'as l'air moins sûr, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes affaires. Les mêmes affaires. Ma petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous,
maudit que c'est cool.
On s'est endormi collé, puis on n'a même pas fait l'amour.
Mon Dieu que c'est cool, mon Dieu que c'est cool.
La petite Mexicaine a décidé de dormir chez nous.
Mon Dieu que c'est cool, mon Dieu que c'est cool.
On s'est endormi collé, puis on n'a même pas fait l'amour.
Mon Dieu que c'est cool, mon Dieu que c'est cool.
Pis tu m'as dit